RFI Matin, la suite, 6h44 en temps universel, 1h44 à Washington. C'est dans deux jours aux États-Unis le retour de Donald Trump au pouvoir. Une fois son investiture passée lundi, le président républicain promet d'aller vite sur plusieurs dossiers et notamment celui de l'immigration. La campagne d'expulsion massive qu'il promet, Donald Trump s'est donné pour objectif de renvoyer chez eux tous les immigrés en situation irrégulière au cours de son deuxième mandat. Des millions de personnes pourraient être concernées. Mais la résistance s'organise par endroits, y compris sur le plan institutionnel. La Californie, grand état démocrate, et sa plus grande ville, Los Angeles, ont déjà prévenu qu'elles ne coopéreraient pas et qu'elles feraient de leur mieux pour protéger les sans-papiers. Ils sont 1 800 000 en Californie. Et à Los Angeles, c'est un reportage de Loïc Piala.
Maria garde un œil sur son adorable petit-fils de 2 ans. Elle fait partie des abuelitas, ses grands-mères sans papier et sans histoire, loin du stéréotype du dangereux migrant. Quand Donald Trump parle d'expulsion de masse, il ne cible pas que les criminels endurcis.
Je n'ai jamais eu de problème avec la loi. J'ai toujours essayé de bien me comporter, justement pour les éviter.
Arrivée il y a 31 ans du Chili avec un visa touriste, Maria attend sa régularisation. La procédure est bien enclenchée, mais la fermeté affichée par Trump sur l'immigration pourrait tout changer. Il n'exclut pas d'expulser des familles entières.
Il dit tellement de choses qu'on ne sait plus que croire. Il dit que oui, il va expulser tout le monde, puis non. Donc on vit dans l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va faire tout ce qu'il annonce? Est-ce qu'il aura le pouvoir de faire tout ce qu'il annonce? On vit tous avec ses doutes.
Sa fille Jennifer est une dreamer, une protection spéciale créée par l'administration Obama pour les sans-papiers entrés enfants aux États-Unis, un statut lui aussi incertain.
Il n'y a rien de nouveau avec ce statut. On le renouvelle encore et encore, mais on ne sait pas jusqu'à quand on pourra le faire. Trump veut apparemment s'en débarrasser, mais ce serait pour nous trouver une solution permanente. On n'a pas vraiment plus de détails, donc on attend de voir ce qui va se décider.
Dans leur situation, la chance de Maria et Jennifer, c'est qu'elles vivent en Californie, un bastion de la résistance anti-Trump. Mi-décembre, des centaines de personnes ont défilé dans le centre de Los Angeles avec des pancartes clamant en espagnol « Les immigrés sont bienvenus ». Le conseil municipal a formalisé le statut de ville sanctuaire de Los Angeles. Jorge Mario Cabrera travaille avec Chirla, une association d'aide aux migrants.
Ce qu'une ville sanctuaire veut dire, c'est que Los Angeles ne mettra pas d'argent, de personnel ou de ressources à disposition des agents fédéraux pour mener leur expulsion. C'est très simple, mais ça aidera à éviter, ou en tout cas aidera à ralentir, le travail de ces agents à Los Angeles.
Roxanne Hogg, porte-parole du Parti républicain de Los Angeles, dénonce de vaines gesticulations.
L'immigration relève de la compétence du gouvernement, pas d'un conseil municipal. Est-ce qu'on vit dans un état de droit ou pas? C'est très décevant de voir des élus censés défendre la loi faire exactement le contraire. Ils préfèrent qu'on parle d'eux pour montrer qu'ils s'opposent à Donald Trump.
En 2024, l'administration Biden a expulsé 270 000 personnes. Donald Trump vise 5 fois plus chaque année. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Reportage à retrouver sur RFI.fr.
RFI Matin.
Une visite d'État de 2 jours qui s'est terminée hier. Le président angolais João Lourenço vient de passer 2 jours à Paris. Entretien et dîner d'État avec Emmanuel Macron. Participation à un forum économique du MEDEF. Paris et Luanda disent vouloir développer les échanges bilatéraux. Les deux présidents se sont également engagés à renforcer les consultations politiques entre leurs deux pays sur les enjeux internationaux et régionaux. Bilan et questions autour de cette visite d'État et de cette relation avec notre grand invité Afrique ce matin sur RFI, le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, au micro de Pierre Firsion.
Tété Antonio, bonjour.
Oui, bonjour.
Et quels sont les axes forts du partenariat entre la France et l'Angola? Vous diriez qu'ils sont économiques et diplomatiques?
Oui, tout à fait. Nous sommes en train de parler en marge d'un forum économique où les entreprises françaises et angolaises vont pouvoir se parler et auquel le président João Lourenço a lui-même tenu de participer. Ça, c'est le volet économique. Le volet diplomatique, nous avons parlé des questions régionales, surtout les questions des conflits en Afrique.
Justement, sur le volet diplomatique, on sait que le conflit dans l'Est de la RDC a été au centre des discussions jeudi entre les deux présidents. Qu'est-ce qu'il s'est dit concrètement?
Bon, qu'est-ce qui s'est dit ? C'est pouvoir faire en sorte que la dynamique enclenchée par le processus de Luanda continue.
Mais alors concrètement, comment faire pour relancer ce processus de Luanda ?
Bon, mais il faut que nous continuions à travailler avec le parti, ne pas surtout jeter l'eau et les bébés. Je parle de certains acquis que nous avons eus pendant les négociations de Luanda entre ministres, du point de vue des points difficiles qui gênent en tout cas la relation entre les deux pays et la paix à l'est de la RDC, dont la question de retrait de force et la question de neutralisation des FDLR et la question du M23, qui sont les trois questions principales qui ont été objet des négociations et où on a fait des progrès sur la question entre le retrait de force, y compris des forces du Rwanda, de la RDC, la neutralisation des FDLR. Ces acquis que nous avons atteints doivent faire en sorte qu'on puisse les consolider et pour pouvoir trouver un résultat, un consensus sur les questions qui restent. Et ça, on peut le faire à plusieurs niveaux. Et là, on était déjà au niveau des chefs d'État, parce que nous croyons que quand les ministres sont bloqués, c'est bien les chefs d'État qui doivent le débloquer.
Alors justement, comment permettre de relancer la discussion entre les chefs d'État ? Quels sont les moyens que vous avez de votre côté pour essayer de favoriser le dialogue ?
On ne va pas inventer la roue. On n'a qu'un seul moyen, c'est de parler. Ce que nous prenons, c'est le dialogue.
Mais alors, le dialogue, pour dire quoi et pour quoi faire concrètement ?
Mais pour trouver des solutions, c'est ce que je viens de dire. Je viens là de citer des questions sur lesquelles on a avancé. Il y a une question qui bloque jusque-là, c'est justement la question du M23. Et donc, c'est celle-là, c'est ça le hic qu'il faut chercher à résoudre. Si on peut aller plutôt à une table de négociation, plutôt que de faire la guerre pendant plusieurs années pour revenir à la même table, autant prendre les raccourcis.
Le problème autour du M23, c'est quoi concrètement ?
C'est clair, il y a une partie qui veut qu'il y ait un dialogue direct. Il y a une autre qui pense qu'il faut que ça passe par un processus, dont celui de Nairobi. Donc il y a ces différences d'opinion. Il faudra trouver un moyen pour pouvoir rapprocher le point de vue, c'est ça.
Et une rencontre entre les deux présidents vous paraît possible à court ou moyen terme ?
Je n'ai jamais trouvé de l'impossible. Entre les hommes, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent jamais, mais les hommes toujours. Et nous continuons à croire que quand les conditions se réunissent, les chefs d'État peuvent se rencontrer.
On parlait là du conflit dans l'est de la RDC. Le continent est également touché par une autre terrible guerre au Soudan que personne ne parvient à arrêter. L'Union africaine semble comme absente de ce dossier-là aussi. L'Angola va prendre la présidence de l'Union africaine le mois prochain. Comment l'organisation peut-elle parvenir à faire entendre sa voix sur ces dossiers, Tété Antonio ?
Le président Lorenzo, dans tous ses discours, que ce soit à l'Assemblée générale, il a exactement utilisé les mêmes expressions que c'est le conflit du Soudan, dont on ne parle pas assez. Et il n'a jamais raté une occasion pour le faire. Le président Lorenzo a dit dans un de ses derniers discours qu'étant président de l'Union africaine, il va consacrer une attention particulière à la question du Soudan. Nous pensons que c'est une situation que nous ne devons pas continuer à regarder sans pouvoir agir. Et cette action, évidemment, ne peut pas être isolée à l'Afrique. C'est le monde qui doit regarder aussi le Soudan.
Une dernière question. Donald Trump sera investi lundi président des États-Unis. Quel regard portez-vous sur son retour au pouvoir ?
En ce qui concerne l'Angola, nous disons que nos relations, ce n'est pas des relations entre personnes, c'est des relations entre des États. Nous avons une relation avec l'Amérique que nous voudrons bien continuer à développer, quel que soit le président qui est aux États-Unis, c'est des relations avec l'Amérique que nous regardons.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Merci.
Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, invité RFI de Pierre Firsion. Et dans notre reportage Afrique ce matin, on part à la découverte d'un trésor au Maroc, à Agadir, avec une institution qui fêtera bientôt ses 60 ans. Ouverte en 1967, le magasin Records Zaman était à l'époque le premier disquaire d'Agadir. Il regorge toujours aujourd'hui de milliers de vinyles et de cassettes et c'est le fils du fondateur Amin Akdim, 30 ans, qui dirige aujourd'hui la boutique. Il développe aussi une activité de DJ et s'emploie à numériser des enregistrements rares. François Imfer Kataji.
Situé au centre du vieil Agadir, le magasin fait à peine 20 mètres carrés, mais il paraît beaucoup plus grand. Du sol au plafond, des vinyles allant des années 40 à aujourd'hui décorent les murs et garnissent les étagères. De Billy Oceans à Ray Charles, en passant par AC/DC ou Farid El Atrache, on retrouve tous les styles Amin Akdim a repris le magasin de son père en 2017.
Dans ce magasin, vous pouvez trouver de la musique d'Inde, de la musique classique égyptienne, de la musique du Brésil, du hip-hop marocain, du funk, du disco.
Assis à son bureau au centre de la petite pièce, il collecte et classe toute cette musique sur son ordinateur. Il est fier de sa collection unique de musique arabe.
Je veux conserver cette mémoire au Maroc. La plupart des gens ne voient la musique marocaine que comme de la musique traditionnelle. Mais il y a de la musique électronique, du groove, de la disco. C'est ce que j'essaye de partager avec les gens dans le monde.
Parmi ces milliers de vinyles et ces centaines de cassettes, quelques perles rares.
Maintenant, je les garde pour moi. C'est un trésor. Ça coûte très cher. Il y a vraiment une différence entre les éditions originales et les rééditions. Et puis pour moi, ça me rappelle mon père.
D'une valise bien cachée à l'arrière du magasin, il sort un vinyle du groupe de rock engagé des années 70, Nassel Khiwan.
Regardez, il a été disque d'or en 1973.
Ou encore, un album d'Aussi Bizza, le groupe britannique d'afropop des années 70 formé par des Ghanéens et des Caribéens. Mais ce qui le passionne le plus, c'est la musique enregistrée dans les studios de Casablanca dans les années 70.
Il y a Izenzaren, c'est un groupe berbère des années 70 très connu. Ils ont sorti leur album à Casablanca.
En plus de numériser et classer cette musique, Amin Akdim est également DJ. Il collabore régulièrement avec le collectif français Radio Flouka pour remettre au goût du jour toute la diversité de la musique marocaine. François Mferkataji, de retour d'Agadir, RFI.
Notre reportage Afrique que vous retrouvez sur RFI.fr et notre appli Pure Radio, bientôt 7h en temps universel.
RFI Matin.
L'actualité des médias, comme chaque semaine. Bonjour Amaury de Rochegonde.
Bonjour Julien.
On parle avec vous cette semaine des accords que viennent de nouer deux grandes agences internationales de presse, l'agence France Presse et l'Associated Press, avec des acteurs de l'intelligence artificielle.
Oui, ce sont deux accords qui posent question car ils permettent de crédibiliser les réponses de ces intelligences artificielles génératives sans que soit clairement posée la question du droit moral de leurs auteurs. Le premier en date est celui de l'AFP avec Mistral, la championne française de l'IA, qui va pouvoir disposer des 38 millions de dépêches de l'agence depuis 1983. Sur le papier, c'est un accord qui ne présente que des avantages. Mistral AI, fondée il y a 2 ans, bénéficie de l'expertise d'une des 3 grandes agences de presse mondiale en 6 langues. Sa solution, le chat, va pouvoir conforter ses réponses avec un contenu vérifié, sourcé, ce qui constitue un avantage compétitif alors que d'autres grands médias européens, comme Axel Springer, El País ou Le Monde, ont déjà signé des accords avec ChatGPT. Mistral assurera une source de revenus dynamique pour l'AFP, qui se met ainsi à l'heure de l'IA.
Mais Mistral est aussi une start-up qui ressemble beaucoup à ses cousines américaines.
C'est vrai, elle a d'ailleurs renoncé à une logique d'open source pour passer un accord privé l'an dernier avec Microsoft, qui est entré dans son capital et qui est aussi actionnaire à 49% d'OpenAI. Surtout, Mistral a beaucoup pesé sur le gouvernement français lors des négociations sur l'IA Act l'an dernier pour que l'innovation européenne ne soit pas freinée par le droit d'auteur. Or, les journalistes, les éditeurs ont-ils donné leur accord pour que les dépêches soient utilisées afin de nourrir les réponses d'une solution technologique? N'y a-t-il pas un risque de voir l'outil se substituer aux médias eux-mêmes sur ces plateformes?
Et le second accord est celui d'Associated Press avec Gemini de Google.
Oui, ce qui montre bien que la crédibilisation par des contenus d'actualité fiables est cruciale pour ces plateformes. Apple vient d'ailleurs de désinstaller son outil d'IA de résumé d'actualité après des erreurs réalisées à partir de contenus de la BBC qui s'en est plaint. AP, la Associated Press, avait déjà un accord avec OpenAI sur ChatGPT depuis 2023. Aux États-Unis, le New York Times, avec d'autres éditeurs, ont intenté un procès à cet acteur de l'IA pour violation du droit d'auteur. Il chiffre le préjudice à plusieurs milliards de dollars. C'est aussi la logique des organisations professionnelles de la presse en France qui veulent obtenir un accord collectif. Le risque peut être, selon certains, l'existence même de la presse et pour une agence comme l'AFP de dépendre de ses revenus nouveaux qui, comme le montre la décision de Meta de renoncer au fact-checking, peuvent s'arrêter du jour au lendemain.
Amaury de Rochegonde, merci beaucoup. Et le journal dans une minute.
Géopolitique.
Lundi prochain marquera le coup d'envoi du second mandat de Donald Trump. Le 47e président des États-Unis prendra les rênes d'une économie qui se porte plutôt bien comparativement à la zone euro. Joe Biden affirme laisser à la nouvelle administration des cartes très fortes à jouer comme le cessez-le-feu à Gaza. Donald Trump va-t-il renforcer le leadership américain ?
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI. Musique du monde. Laurence Alloire.
Polyamour, manque de sommeil et recette de pesto sont l'ordre de marche de la contrebassiste suisse Louise Knobil qui vous fait de Knobizou. On nous a menti sur Haïti, c'est le titre du livre de Charlène et Claudine Civil, deux sœurs. On en parle aussi, histoire de compléter notre connaissance sur ce joyau des Caraïbes.
Musique du monde. Laurence Alloire.
Tout à l'heure, à partir de 20h10 TU.
RFI.